100% d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Que deviennent les dizaines de milliers de migrants refoulés aux portes de la Hongrie en raison des barbelés mis en place à la frontière? On l'a vu, les demandeurs d'asile empruntent désormais le chemin de la Croatie voisine, Zagreb, qui tient un discours ultra sécuritaire, s'est d'abord dit submergé par cet afflux de 80 000 personnes. Mais désormais, comme vous allez le comprendre avec ce reportage de Simon Rico, les autorités ont mis en place un système de transit extrêmement efficace. Les migrants sont transférés vers la frontière hongroise. Ensuite, les autorités hongroises les prennent en charge pour les transférer à leur tour vers l'Autriche. Reportage signé Simon Rico.
La scène se déroule au poste frontière de Tovarnik, entre la Croatie et la Serbie. Elle se répète plusieurs fois par jour. Le long du cimetière, logé dans le No Man's Land entre les guérites des douaniers, plusieurs centaines de réfugiés attendent sous la pluie. Ils sont arrivés par bus depuis le sud de la Serbie après un voyage d'une douzaine d'heures. Les deux derniers kilomètres, ils les ont franchis à pied sous l'œil attentif des policiers. Mohamed, un étudiant de 22 ans, a quitté Damas il y a 3 semaines. Son objectif, rejoindre Bruxelles.
Entre la Syrie et la Turquie, ça a été très dur. La traversée en bateau entre la Turquie et Athènes, c'était pareil. Par contre, d'Athènes jusqu'ici, tout s'est bien passé. Les gens, la police, tout était ok. Là, on va nous emmener dans un car jusqu'à un camp en Croatie où on va pouvoir se reposer, manger et boire quelque chose. Ensuite, on nous transportera en Hongrie.
La fatigue se lit sur les visages. Les vêtements sont souillés par la boue et certains tentent de se protéger du froid avec des couvertures de fortune. Au fur et à mesure que l'attente se prolonge, la tension gagne la foule. Sous l'œil attentif du HCR, quelques policiers organisent le transfert des milliers de personnes qui arrivent ici chaque jour vers le centre d'identification d'Opatovac, situé à quelques kilomètres. Elena Bejčić en est l'une des porte-parole.
Rien que pour la journée d'hier, environ 7000 migrants sont entrés en Croatie depuis la Serbie. Ils sont conduits en permanence en train ou en bus vers la frontière hongroise. Actuellement, il y a à peu près 500 personnes dans le camp. Nous procédons à leur identification et on organise le plus vite possible leur transfert.
Le centre d'Opatovac est situé sur le terrain d'un ancien dépôt de pétrole. Plusieurs dizaines de tentes ont été montées à la hâte. Elles peuvent accueillir jusque 4000 personnes. Autour, quelques préfabriqués de la Croix-Rouge où s'entasse l'aide d'urgence. Les réfugiés doivent fournir des papiers d'identité, donner leurs empreintes digitales, puis être photographiés. Elena Bejčić organise volontiers une visite détaillée pour les rares journalistes présents sur place.
Voilà, ici, c'est l'endroit où les gens se font enregistrer. Ça, c'est le panneau où on leur explique qu'ils peuvent demander l'asile en Croatie. Là, c'est une grande tente pour accueillir les familles. Si elles sont séparées, elles déposent une demande ici. On fait tout ce qui est possible pour les rassembler, pour que les gens ne restent pas séparés.
Dans un champ qui longe le centre, des volontaires étrangers s'activent autour d'un modeste campement. Ils distribuent des vêtements chauds, des chaussures et de la nourriture. La plupart viennent d'Allemagne et d'Autriche. Sophie est la toute jeune coordinatrice d'IHI, une ONG créée il y a quelques semaines à peine pour faire face à la crise dans les Balkans.
Nous ne sommes pas officiellement autorisés à intervenir à l'intérieur du camp, mais nous coopérons maintenant avec les quelques organisations qui y travaillent. Elles manquent de bras et font appel à nous. Du coup, elles nous donnent leurs t-shirts, leurs badges et nous pouvons y entrer.
Un convoi d'une vingtaine d'autocars prend la route de la Hongrie, direction le poste de Teresino Polje, où le transfert a été organisé avec l'accord de Budapest. Le temps que les réfugiés passent, la frontière est fermée. Une situation compliquée même pour les riverains. C'est le cas de ce Hongrois, Miklos, qui a juste passé le week-end en Croatie avec sa famille. Il espère bientôt pouvoir rentrer chez lui à Pécs.
Nous avons franchi la frontière vendredi. Il y avait déjà un mur de montée au milieu du pont. Les soldats nous ont prévenus que ce serait peut-être fermé, qu'il faudrait vérifier sur Internet. On l'a fait, mais ils indiquaient que la frontière était ouverte.
À peine la rivière Drave traversée, les réfugiés sont pris en charge par l'armée hongroise. De l'autre côté de la frontière, un immense train d'une quinzaine de wagons doit les amener jusqu'en Autriche. Malgré la fermeté affichée de leurs autorités, les pays du sud-est de l'Europe ont bien mis en place des corridors humanitaires. La question reste de savoir jusqu'à quand ils tiendront.
En tout cas, dans les prochains mois, la Lituanie accueillera 1105 migrants qui fuient la Syrie, l'Irak ou l'Érythrée. L'Estonie et la Lettonie devraient faire de même. Après des semaines de discussions, les trois pays baltes ont finalement accepté les demandes européennes. Un millier de migrants, le chiffre peut paraître dérisoire. Et pourtant, pour les sociétés baltes, il s'apparente à un défi. Reportage signé Marielle Vituro.
Une salve d'applaudissements pour rendre hommage au courage des migrants qui fuient la guerre et leur souhaiter la bienvenue avant même leur arrivée. Le 12 septembre dernier, journée européenne de solidarité, une centaine de Lituaniens étaient réunis sur la place Kudirkos de Vilnius en face du siège du gouvernement. Parmi eux, à Aušrinė, prête à s'engager quand ils arriveront.
Je suis venue pour dire que nous attendons les réfugiés, que nous n'en avons pas peur. Ce sont des personnes comme nous, il faut faire preuve d'humanité. Parfois, les Lituaniens ont des tendances xénophobes, mais que devons-nous craindre ? La Lituanie est un État multiculturel depuis plusieurs siècles. Nous sommes habitués, il nous suffit juste d'être plus ouverts. Quand ils seront là, je pense que je pourrai les aider, notamment en m'occupant des enfants.
Le lendemain, en Estonie, sur la place de la Liberté, à Tallinn, à l'appel de la chanteuse Hélène Sidla, 20 groupes se succédaient sur scène, encouragés par plus de 7000 personnes. Une manière de montrer aux 523 réfugiés qui doivent arriver dans le pays qu'ils sont bienvenus en Estonie. Des manifestations qui cherchent à faire oublier le récent incendie criminel à Vao en Estonie contre un centre de réfugiés ou les centaines de Lettons en colère dans les rues de Riga. Au Riigikogu, le parlement estonien, le député Martin Helme est lui aussi remonté. Son parti conservateur d'extrême droite vient de faire son entrée au Parlement en mars dernier. Il a recueilli 8% des voix. Pour lui, l'immigration doit rester une affaire uniquement nationale. Ses craintes sont nombreuses.
L'Estonie a déjà dépassé son quota d'immigration. Un tiers de la population sont des migrants russes, un héritage de l'époque soviétique. De plus, notre pays compte à peine 1 million d'habitants. La France et l'Allemagne vont accueillir des dizaines de milliers de réfugiés. Dans notre cas, un tel nombre mettrait notre existence en tant que nation en danger.
Des prises de position extrêmes, mais qui séduisent et qui trouvent écho dans les sociétés baltes, reliées par politiciens et médias. Quelle explication donner à ce rejet qui a failli provoquer la chute du gouvernement en Lettonie et nécessiter l'intervention du président? Karolis Žibas, chercheur à l'Institut lituanien des études ethniques, est présent à la manifestation de soutien.
Pour moi, tout découle d'une méconnaissance élémentaire de la situation. Ceux qui sont contre ces réfugiés ne disent pas que ces personnes sont des étrangers, mais qu'il s'agit de migrants économiques qui vont les léser. Les populations ici ne sont pas habituées à être en contact avec des réfugiés, des immigrants. Elles imaginent d'emblée qu'ils représentent un danger ou une menace pour la sécurité.
Riga, Tallinn et Vilnius se sont malgré tout rangés à la position de Bruxelles et accueilleront ces réfugiés qui devraient arriver dans les prochains mois. En Estonie, d'ici 3 mois, leur nombre va être multiplié par 10. Tout le système d'accueil est donc à repenser. C'est le défi logistique que Triin Raag, du ministère estonien des Affaires sociales, doit résoudre.
Nous sommes toujours dans une phase de préparation. Nous recherchons des ONG partenaires et des appartements dans lesquels les réfugiés pourront habiter. L'autre défi à relever reste les services que nous allons offrir aux réfugiés. Nos médecins, psychologues, travailleurs sociaux ne parlent pas la langue et n'ont pas été formés à cela.
Pour le Conseil estonien des réfugiés, une ONG active depuis 7 ans, l'arrivée imminente des réfugiés met le pays face à ses propres contradictions et pointe du doigt l'intégration parfois peu réussie des russophones du pays. Lys Siroya.
Dans le processus d'intégration, ce sont toujours les mêmes qui doivent fournir des efforts. Il est essentiel que l'État propose des cours de langue, peu importe l'endroit où la famille de réfugiés réside. Il est aussi nécessaire de pouvoir concilier la vie personnelle et professionnelle des réfugiés avec ces cours.
Ces derniers mois, les pays baltes ont été rattrapés par l'actualité à toute vitesse. Après avoir longtemps ignoré ces problématiques internationales et cru être à l'abri, il leur faut désormais ouvrir les yeux.
Et pour comprendre l'enjeu de la question des réfugiés en Lettonie, on retrouve Céline Bayou. Bonjour Céline.
Bonjour.
Vous signez dans les pages Europe de la documentation française un article sur la question. Céline, comment expliquer que la question de l'accueil de 776 réfugiés dans le pays ait failli faire tomber le gouvernement ?
Alors parce que le gouvernement en fait est composé d'une coalition avec des gens qui ne sont pas d'accord sur grand chose, mais vous avez donc dans cette coalition un parti qui est un parti on dira de droite un peu conservatrice qui était pour l'accueil, mais vous aviez aussi deux autres partis, donc l'Alliance Nationale dont on s'attendait à ce qu'elle soit contre, et puis le parti des Verts qui a longtemps hésité mais s'est prononcé d'abord contre et puis finalement s'est rendu aux arguments de la Première Ministre. Mais ça a été assez compliqué et il a fallu l'intervention du président pour parler avec tous ces gens et les mettre d'accord.
Et quel était l'argument pour les convaincre ?
L'argument essentiellement alors, était d'une part une espèce de menace latente qui était là de est-ce qu'il y aurait des sanctions, et même si ce ne sont pas vraiment des sanctions directement, il y aurait des conséquences au niveau du comportement du reste des pays de l'UE. Or la Lettonie a besoin de l'UE, et puis en sous-main on parlait aussi quand même de la présence de l'OTAN. Il y a une question morale qui est intervenue quand même à un moment donné, mais il a fallu quand même que la première ministre en particulier mette pas mal d'énergie pour convaincre ses partenaires du fait que c'était indispensable. Alors derrière, il y avait aussi quand même l'idée que de toute façon, même s'il disait non, même si le vote entre les membres de la coalition était négatif, de toute façon les réfugiés seraient accueillis, et que c'était simplement projeter une mauvaise image du pays à l'extérieur et à l'intérieur aussi que de dire non.
Céline Bayou, ce débat ne met-il pas en relief l'échec de la politique d'intégration du gouvernement letton vis-à-vis de sa minorité russophone, qu'on appelle aussi les non-citoyens ? Quelle est leur situation ?
Alors, parmi les gens qui relèvent de la minorité russophone, certains sont citoyens et certains ne le sont pas encore, ou enfin ne le sont pas. Donc vous avez un peu plus de 250 000 personnes actuellement en Lettonie qui sont non-citoyens. Je ne sais pas si on peut parler d'échec de l'intégration. C'est sûr que ça a été pris comme argument et présenté comme argument. C'est-à-dire que certains, notamment dans la droite nationaliste, arguent du fait qu'il y a eu un échec, qu'on n'a déjà pas réussi à intégrer ces gens correctement, et que comment le fera-t-on avec des gens qui en plus sont d'une autre culture, voire d'une autre religion. Or, déjà avec des gens qui sont russophones, culturellement considérés comme proches. Alors ce qui est intéressant, c'est que maintenant on les considère comme culturellement proches, enfin en tout cas dans la voix de ces nationalistes, alors qu'il y a 6 mois, on les considérer comme différents. Et donc voilà, c'est plutôt ça. En fait, on s'interroge aujourd'hui en Lettonie sur comment faire un afflux supplémentaire, mais je crois qu'aussi derrière, et de plus en plus ces jours-ci, il y a un argument économique. C'est-à-dire, est-ce qu'on va aider ces gens-là aux dépens des Lettons qui déjà sont dans une situation économique qui n'est pas forcément tout à fait enviable ou formidable.
Merci beaucoup Céline Bayou. Votre article est à retrouver, bien sûr, en lien sur notre site internet.
Merci beaucoup.
Et en République tchèque non plus, on n'accueille pas à bras ouverts les réfugiés. Le président Miloš Zeman n'hésite pas à dire et redire à quel point ils ne sont pas les bienvenus. Des propos honteux, comme bien d'autres déclarations, a estimé le collectif d'artistes Stoven, pour dénoncer une pensée politique qui a bien du mal à s'élever au-dessus de la ceinture. Ils ont donc remplacé le drapeau officiel du château de Prague par un caleçon rouge géant, toute une histoire que nous raconte Alexis Rosenzweig.
Stoven voulait symboliser avec ce caleçon la beaufatitude dont le président tchèque est accusé d'avoir fait sa marque de fabrique en jurant comme un charretier et en parlant comme s'il était au bistrot. Le choix de la couleur, rouge, voulait rappeler les tropismes russes et chinois d'un Miloš Zeman critiqué pour ses derniers déplacements officiels à Moscou et Pékin. trois des auteurs de ce happening politico-artistique qui ont grimpé sur un échafaudage pour atteindre le porte-drapeau font l'objet de poursuites pour trouble à l'ordre public. Ils ont été qualifiés de crétins par un président prompt à faire limoger le gradé en charge de sa sécurité. Mais l'humour du geste n'a pas laissé insensible une partie de la population prête à se rendre au château en caleçon rouge le jour de la fête nationale, une tasse de café à la main pour symboliser le café pragois, expression employée par l'entourage du président pour fustiger ses adversaires et pour créer un fossé entre le vrai peuple et l'élite intellectuelle de la capitale. Car Miloš Zeman est un président pour le moins clivant, dont le populisme est encore plus palpable en ces temps de crise migratoire. Personne ne vous a invité chez nous ? C'est le genre de phrase qu'il martèle à l'adresse des migrants quand il n'est pas occupé à soutenir une pétition anti-immigration dans un pays remarqué pour son refus des quotas de réfugiés. À 72 ans, ce dinosaure de la politique tchèque, son grand rival, n'a peut-être honte de rien, mais calcule tout. Sa cote de popularité est toujours au plus haut, malgré tous ses excès. Pas sûr que le coup du caleçon géant la fasse baisser.
Une semaine après le retour au pouvoir du gouvernement de la gauche radicale en Grèce, les relations entre le Premier ministre Alexis Tsipras et l'Église sont très tendues. Non pas que le gouvernement souhaite créer un impôt sur la très riche Église orthodoxe, la polémique porte en fait sur les cours de religion à l'école. Dans un pays où l'Église et l'État ne sont pas séparés, le chef du gouvernement s'interroge sur la place du religieux dans les programmes scolaires et ça ne plaît pas. Stevenard, vous êtes notre correspondante à Athènes. Bonjour.
Bonjour.
Tout est parti d'une déclaration de la ministre adjointe de l'Éducation.
Oui, on parle ici de Sia Anagnostopoulou, historienne de formation. Alors, la semaine dernière, elle a appelé une simplification de la procédure de dispense des cours de religion dans les écoles publiques. À l'heure actuelle, en Grèce, les élèves doivent justifier d'une autre religion ou de leur athéisme pour obtenir une dérogation. Ceux qui sont orthodoxes ont donc en quelque sorte l'obligation d'y assister.
Et cette déclaration n'a pas plu au chef de l'Église grecque qui a riposté dès le lendemain.
Oui, le conservateur Monseigneur Hieronymos s'en est pris directement à la ministre adjointe. Pour lui, les déclarations d'une certaine femme n'ont pas la valeur de décision ministérielle. Il a choisi de rappeler la Constitution qui stipule que l'instruction a pour but le développement d'une conscience nationale et religieuse. Donc pour le chef de l'Église, cette conscience religieuse est forcément grec-orthodoxe dans un pays où 95% des gens se déclarent de cette religion. Il estime que modifier les règles de l'accès à l'enseignement religieux relève donc de la Constitution et que c'est elle que les Grecs doivent changer s'ils veulent se débarrasser de ces cours.
On peut dire, Charlotte, que c'est une polémique qui n'est pas vraiment nouvelle en Grèce.
Oui, en effet, elle oppose régulièrement les tenants de la laïcité et leurs opposants. Plusieurs années, des circulaires ont même autorisé les élèves à ne pas justifier leur demande de dérogation au cours de religion. Et de toute façon, même si sur le plan légal aujourd'hui, il faut actuellement une justification, dans la pratique, c'est différent. C'est ce qu'explique Effie Focas, une sociologue de la Fondation hellénique des politiques européennes, pour cette chercheuse. En réalité, la décision d'accorder une dispense ou non dépend des directeurs d'école et certains ne sont pas très regardants.
Mais derrière la réaction de l'Église, il y a un message clair qui est adressé au gouvernement.
C'est ce que dit Effie Focas. Pour cette chercheuse, cette passe d'armes n'est pas le fruit du hasard. L'actuel ministre de l'Éducation, Nikos Philis, n'est pas du goût de l'archevêché. En mai, Monseigneur Hieronymos l'avait déjà vertement critiqué alors qu'il était président du groupe parlementaire de Syriza. Nikos Philis avait alors pris position pour la séparation de l'Église et de l'État, réponse de l'archevêque à l'époque. Ceux qui ont ce genre de pensée vont le regretter. Pour Effie Focas, il semblerait donc qu'il ait décidé de lui mener la vie dure.
Alors pour finir, la réponse du gouvernement ne s'est pas fait attendre et il a finalement décidé de calmer le jeu.
Nikos Philis a donc rencontré personnellement Monseigneur Hieronymos. Le ministre de l'Éducation a déclaré qu'il partage les mêmes vues avec le chef de l'Église orthodoxe sur la question de l'enseignement de la religion. Et il a insisté sur le fait qu'il n'y aurait pas d'action unilatérale, mais en précisant tout de même que le rôle de l'Église et de l'État sont distincts.
Merci Charlotte Stevenard à Athènes. À très bientôt. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. À demain.